Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Comment convaincre les réticents de se faire vacciner? Une liste pour les médecins traitants, celle de leurs patients déjà vaccinés. Ils pourraient alors contacter les autres. La commission informatique et liberté doit se prononcer. Le variant Delta représente désormais 20% des nouvelles contaminations. Doit-on redouter une quatrième vague? Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
L'Institut Pasteur publie une nouvelle modélisation.
Oui, sans geste barrière et avec une couverture vaccinale légèrement optimiste, la France pourrait vivre cette quatrième vague à l'automne prochain, similaire à l'année dernière, avec des risques d'hospitalisation et de transmission disproportionnés pour les non-vaccinés.
Vous nous donnerez les détails dans 2 jours. Le pass sanitaire pour voyager en Europe, ce sera la chronique tout à l'heure de Delphine Simon. Des favoris la tête basse, les Bleus attendus en fin d'après-midi en France après leur élimination hier face à la Suisse. Premier gros couac de l'ère Deschamps à 1 an du Mondial. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, à nous, ne veut pas tout changer pour autant.
Didier Deschamps a toute la confiance de la Fédération française et la nôtre évidemment aussi pour qu'il continue.
Le président de la Fédération, lui, se dit très déçu et veut discuter avec Deschamps. Le coach français, ses hésitations pendant cet Euro et ses grandes qualités qui demeurent, dossier après cette défaite. Dans le Tour de France cycliste, la colère des coureurs au départ de la 4e étape, ras-le-bol des chutes collectives. Un candidat de plus à la présidentielle, le maire de Grenoble, Éric Piolle, se lance dans la primaire écolo. Le projet de loi bioéthique doit être adopté ce soir à l'Assemblée. La PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, mais pas seulement. Nouvelles règles pour la filiation, la conservation d'ovocytes, l'accès aux origines, la recherche sur les cellules souches. Toutes vos questions sur ce projet de loi complexe et important, dès maintenant, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. À 13h30, nous serons avec le rapporteur de ce texte, le député Jean-Louis Touraine, et la présidente du Collège National des Gynécologues. Et puis vos rendez-vous après 13h30, le vif de l'histoire, le feuilleton avec la grande photographe Sabine Weiss. Et c'est une chanson avec Frédéric Pommier. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
La moitié des Français, tous âges confondus, ont désormais reçu une dose de vaccin contre le Covid. Comment maintenir le rythme dans la campagne de vaccination? À peine plus de 50 000 primo-injections ces dernières 24 heures. Il y a un peu plus d'un mois, le 21 mai, on était à 400 000 primo-injections quotidiennes. Et la menace du variant Delta prend de l'ampleur. 20% des nouveaux diagnostics désormais, 2 fois plus que la semaine dernière, en rappelant que le nombre de nouveaux cas est très limité. Le taux d'incidence en France est de 18 pour 100 000 habitants. Le seuil d'alerte est à 50. Mais une étude de l'Institut Pasteur inquiète. On en parle dans un instant. D'abord, direction le Gers, juste à côté des Landes, où un foyer de Covid variant Delta a été détecté la semaine dernière. 2 personnes viennent de mourir du Covid à l'hôpital d'Auch, variant Delta, là encore, elles n'avaient que 42 et 60 ans. La conséquence dans le département à l'annonce de cette nouvelle, c'est un regain d'intérêt très net pour la vaccination. Manon Klein, France Bleu Occitanie.
Le variant Delta menace le Gers et l'inquiétude monte, note cette bénévole à l'accueil du centre.
Oui, tout à fait. Oui. Il y a beaucoup plus de monde que d'habitude.
Il y a quand même beaucoup de rendez-vous déjà prévus depuis longtemps, des parents notamment avec leur ado pour un vaccin avant le départ en vacances. Mais il y a aussi ceux chez qui ces derniers décès ont provoqué un électrochoc, comme Véronique et Pierre, un couple de sexagénaires venu d'un village près de Lombès.
On a vu les informations et ça nous a un peu inquiétés. Alors du coup, on s'est dit, bon ben, on va y aller. Quoi.
On est isolés, on est de la campagne.
Donc. Voilà, donc si vous voulez, nous, on ne se sentait pas vraiment concernés. On voit de plus en plus de variants et c'est vrai qu'à force, ça commence à être pénible et on s'est décidé.
Hier, la plateforme téléphonique a reçu 875 appels en une seule matinée venus de tout le département. On n'avait pas vu ça depuis 3 semaines. Delphine Graille-Dumas est la sous-préfète en charge de la vaccination.
C'est pas un début de panique. Je pense que c'est une prise de conscience, elle est nécessaire et on est là pour les accompagner pour qu'ils se fassent vacciner.
Même si aujourd'hui la situation n'a rien à voir avec les pics de l'épidémie, l'agence régionale de santé s'attend à voir ce variant Delta s'imposer. C'est une course contre la montre, dit l'ARS. Du côté de la préfecture, pas question de prendre des restrictions. Les grands événements peuvent avoir lieu, comme ce week-end sur le circuit de Nogaro, mais avec une condition, le pass sanitaire.
Un circuit de Nogaro qui accueille un grand prix de camion pour ceux que ça intéresse. Variant Delta et les autres, comment le vaccin peut nous protéger d'une quatrième vague dont la menace se précise, Hélène Chevalier. L'Institut Pasteur publie une nouvelle modélisation.
Oui, modélisation dont le but est de voir ce qui se passera à l'automne avec une population partiellement vaccinée et sans plus aucune restriction ou geste barrière. Le scénario retenu est légèrement optimiste en termes de couverture vaccinale. 30% de vaccinés chez les 12-17 ans, 70% pour les 18-59 et 90% pour les plus de 60 ans. Pour autant, l'Institut Pasteur estime qu'un pic d'hospitalisation similaire à celui de l'automne dernier pourrait se reproduire. La population touchée serait principalement des non-vaccinés, des personnes qui contribueraient de façon disproportionnée à la transmission du virus, note Simon Cauchemez à la tête de l'unité modélisation des maladies infectieuses.
On s'attend à ce que si vous n'êtes pas vacciné, vous ayez 12 fois plus de chances de transmettre le virus à un proche que si vous êtes vacciné. Et puis aussi, dans notre scénario de référence, on fait l'hypothèse que 10% des plus de 60 ans ne seront pas vaccinés. Ça représente 3% de la population, mais on anticipe qu'il pourrait représenter jusqu'à quasiment 40% des personnes hospitalisées.
Et avec 30% de vaccinés, les enfants et les adolescents seraient également responsables de la moitié des infections et des transmissions, ce qui pourrait obliger à de nouvelles restrictions dans les établissements scolaires à la rentrée. Ça, c'est pour le scénario sans plus aucun geste barrière. En revanche, selon Pasteur, avec le port du masque, la distanciation physique, la taille de ce pic serait fortement réduite. Et ce, même si ces restrictions ne sont demandées qu'aux personnes non vaccinés. Mais cela, c'est un débat sociétal et éthique qui n'appartient pas à l'Institut de trancher.
Pour l'instant, la moitié des Français ont reçu au moins une dose. Le tiers est complètement vacciné. Et face au variant Delta, évidemment, et on le voit là, les plus menacés sont les non vaccinés. Dans l'EHPAD des Landes, où a été repéré un foyer, 5 des 6 soignants contaminés n'étaient pas vaccinés. Alors comment convaincre les plus réticents? Pour les soignants, le gouvernement n'écarte pas l'idée d'un vaccin obligatoire à la rentrée. À l'étude aussi, pas avant la rentrée non plus, la fin de la gratuité des tests PCR dits de confort. Et puis les médecins traitants pourraient battre le rappel de leurs patients. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, veut mettre à leur disposition un nouvel outil qui demande le feu vert de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL.
Je souhaite ardemment, je demande à la CNIL de me laisser la possibilité d'envoyer aux médecins généralistes la liste de leurs patients qui ont été vaccinés de manière à ce qu'ils puissent mobiliser ceux qui ne l'ont pas été. Imaginons qu'on ait une vague, ce que je ne souhaite pas, mais imaginons qu'on ait une montée de cas à la rentrée, à l'automne, de variant Delta ou un autre variant qui aurait émergé pendant l'été. Je crois que les Français ne comprendraient pas qu'on soit amené à se poser la question de refermer restaurants, commerces, etc. parce que 20% des Français auraient fait le choix de ne pas se vacciner. Donc je pense sincèrement que la bataille, elle se gagne maintenant.
Olivier Véran, ce matin sur France Info, que les médecins traitants donc puissent obtenir la liste de ceux qui ont été vaccinés parmi leurs patients pour contacter ceux qui ne l'ont pas été. La CNIL donne son avis après-demain. Le Covid et ses conséquences, le laboratoire français Sanofi dit vouloir investir près de 2 milliards d'euros d'ici à 2025 dans les recherches sur l'ARN messager. Le variant Delta inquiète de plus en plus en Russie. Les chiffres de décès remontent. 124 morts hier à Moscou, 75% des lits occupés à l'hôpital. 110 morts à Saint-Pétersbourg, où se tiendra malgré tout vendredi le quart de finale de l'Euro entre l'Espagne et la Suisse. Et oui, la Suisse en quart de finale et pas la France. Car comme à la Coupe du Monde 2002, les amateurs se souviennent, les Bleus étaient favoris de 7 euros, champions du monde en titre, une attaque de feu, des stars à l'appel. Mais ils sont éliminés prématurément après un match dingue hier soir. Première mi-temps complètement ratée, 1-0 pour la Suisse. Deuxième mi-temps épatante jusqu'à 10 minutes de la fin. Lloris arrête un pénalty, Benzema marque un doublé, Pogba inscrit un magnifique but, 3-1. Mais à la toute fin, les Bleus se laissent remonter et ils perdent au tir au but. Gueule de bois des supporters ce matin, rencontré par Thibault Lefèvre avant l'embarquement, tête basse sur le Bucarest-Paris du matin.
Il ne lui reste qu'un bracelet fluorescent au poignet avec le logo de l'Euro 2020.
Retour frustrant, c'est tout. Franchement, ça fait chier.
Mehdi a enlevé son maillot tricolore, fait sa valise et il s'apprête à retourner à Marseille plus tôt que prévu.
On est frustré de revenir à ce niveau de la compétition, 8e finale, alors sur le papier, on a la meilleure équipe du monde, d'Europe, quoi. À 3-1, à 10 minutes de la fin, ils peuvent pas revenir au score, c'est pas possible en fait. Après, on peut dire ce qu'il y a, Mbappé, il a loupé penalty. Non, c'est le 3-1 qui va rester à travers la gorge. C'est grave, c'est frustrant.
À l'heure du bilan, vous l'avez compris, c'est évidemment la déception qui prime. Et pourtant, ce supporter a vibré hier soir, même si le parcours des Bleus s'est arrêté brutalement.
C'est le plus match de l'Euro, c'était une finale. On est passé par toutes les émotions. Alors, on a gagné, on a perdu, on est revenu. Lloris, il arrête le penalty, sinon je pense que le match il est plié. Derrière Benzema, il en met deux. Pogba, il a mis le but de l'Euro. Mais bon, on est fiers d'être Français, on reviendra plus fort dans 2 ans à la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde au Qatar, dans un peu moins de 2 ans, avec sans doute beaucoup de changements.
C'est aussi la fin d'une ère d'échange, je pense. Je pense que c'est Zidane qui va reprendre l'équipe. Hier, je pense que c'était la dernière des champs.
La fin aussi pour Karim Benzema et Olivier Giroud, pour ce supporter frustré qui, en revanche, pardonne tout à Kylian Mbappé malgré son pénalty manqué.
Fin de l'ère des champs, disait ce supporter, on n'en est pas là. Mais c'est vrai qu'après cette défaite, la remise en cause est assez générale. La défense, pas à la hauteur hier soir. Et même les inatteignables, en effet, n'échappent pas aux critiques. La star Mbappé, inefficace et qui manque un pénalty. Et donc, l'entraîneur, champion du monde, Didier Deschamps. Deschamps, l'homme qui gagne presque toujours, a perdu hier soir après avoir souvent changé de tactique depuis le premier match, Alexandre Vaux.
À travers ses choix, le sélectionneur des Bleus a souvent donné l'impression de tâtonner depuis le début de la compétition. Quatre équipes différentes alignées en quatre matchs, notamment à cause des blessés et trois changements de système de jeu. Les champions du monde avaient deux buts d'avance hier soir à 10 minutes de la fin, mais cette fébrilité les a rattrapés avant d'être sanctionnés lors de la séance de tirs au but. Il y a eu aussi des choix payants pour Didier Deschamps, comme le retour de Karim Benzema avec 4 buts marqués lors des 2 derniers matchs, mais cela n'a pas suffi. Si plusieurs trentenaires de l'équipe de France pourraient mettre fin à leur carrière internationale après cet euro, à aucun moment après le match hier soir, le sélectionneur des Bleus, lui, n'a laissé entendre qu'il pourrait partir. L'objectif des demi-finales n'est pourtant pas atteint. Les joueurs sont avec moi, a répété Didier Deschamps, qui reste sous contrat jusqu'au Mondial 2022 l'année prochaine. Au Qatar. Bucarest, Alexandre Vaux, France Inter.
Un sous contrat jusqu'à l'année prochaine et une compétition ratée ne doit pas ruiner la confiance mise en lui. C'est l'avis de l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France, Alain Giresse.
On accepte l'entraîneur quand il gagne, on n'accepte pas quand là, justement, il a un échec. Alors, bien sûr qu'il a sa part de responsabilité avec les joueurs, mais c'est des raccourcis tellement simplistes en s'imaginant comme ça, il suffit qu'on change d'entraîneur comme si l'entraîneur avait toutes les clés d'un match. Non, bien sûr, tout ce qui met la mise en place, le cadre de jeu, etc. Mais l'animation, elle reste aussi aux joueurs. Et c'est cet échange, ce partage qui fait, cette relation qui existe entre un staff et un entraîneur et ses joueurs, qui fait que l'équipe a de la compétence. Donc, voilà, il est encore capable, lui, d'amener cette équipe à la commune.
Alain Giresse, nos confrères de France Info, vous l'avez entendu en titre, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, Didier Deschamps a toute la confiance de la Fédération française. C'est un petit peu moins net quand on lit le dernier communiqué concernant Noël Le Graët, justement, le président de cette fédération. Il se dit très déçu de la défaite, il veut discuter avec Deschamps. L'équipe de France est attendue à Paris en fin d'après-midi. Et à propos des grands responsables du sport français, sachez que Brigitte Henriques, une femme donc, vient d'être élue présidente du Comité olympique français. Elle était jusque-là vice-présidente de la Fédération française de foot. Le foot auquel on revient, la compétition continue sans les Bleus. Avant Suède-Ukraine à 21h ce soir dans l'Euro, un très alléchant Allemagne-Angleterre à 18h dans le stade de Wembley à Londres. Wembley où doit aussi se tenir une demi-finale et la finale de l'Euro devant 60 000 spectateurs. Alors que le Royaume-Uni fait face à une résurgence du Covid à cause du variant Delta, le gouvernement allemand appelle à réduire le nombre de spectateurs autorisés pour les derniers matchs de l'Euro. Sur le Tour de France, le virus de cet été, c'est celui des chutes. On en parle tout de suite. Et oui, le Tour est dégât d'un collectif en série lors de la première et de la troisième étape hier. 3 coureurs au moins ont déjà quitté le peloton, dont le sprinter Caleb Ewan. Des cadors du peloton sont blessés mais continuent. Primoz Roglic, Geraint Thomas, Peter Sagan. Le départ de la quatrième étape, la dernière en Bretagne entre Redon et Fougères, est imminent. Bonjour Fanny Le Chevestrier.
Bonjour Bruno.
Et Fanny, les coureurs préparent une initiative pour dire leur colère après toutes ces chutes.
Oui, pas question, nous ont-ils dit de faire la grève, mais ils veulent effectivement marquer le coup, car pour eux, il y avait des chutes évitables. Ils veulent surtout être entendus. C'est le message que nous a fait passer ce matin, au départ, il y a quelques minutes, Arnaud Démare, le sprinter de la Groupama FDJ.
On n'est pas écoutés les coureurs, on est là pour faire le show, mais les images principales qu'on voit dans le teaser du Tour, c'est des chutes. On se souvient que des chutes. Oui, ça fait partie du sport. Mais là, on le savait, je vous avais dit le matin, ça va être chaud, et encore il n'a pas plu, on sait que c'est dangereux là.
Alors voilà, ils n'ont pas de solution encore à tous ces problèmes, mais ils veulent faire partie du débat. En revanche, ce qui ressortait également ce matin, eh bien, de tous les coureurs que nous avons croisés, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité encore dans ce peloton. Alors quelle forme va prendre la protestation? La plupart des coureurs français que nous avons rencontrés voulaient symboliquement mettre un pied à terre au départ durant 1 minute et ensuite, durant 10 de kilomètres, rouler au ralenti. Les équipes étrangères ne semblaient pas toutes d'accord. Donc voilà, on aura la réponse de ce qui va se faire. de comment ils vont montrer leur colère dans une dizaine de minutes désormais.
Merci Fanny. À part cela, le Français Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, est toujours en jaune. Et Julien Alaphilippe est deuxième au classement général du jaune et du vert à Wimbledon. Aujourd'hui, entrée en lice aujourd'hui de Roger Federer face au Français Adrian Manarino. Dans la série Les Stars luttent contre le temps, Serena Williams entre également en lice face à la Bélarusse Sanovic. Et à propos de vert, à peine les régionales et départementales passées, les écologistes sont déjà en plein dans la présidentielle. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, est désormais officiellement candidat à la primaire écolo. C'est sur Radio France qu'il l'annonce à notre confrère de France Bleu Isère, Benjamin Bourgine.
Les élections régionales et départementales sont maintenant derrière nous. Les écologistes ont d'ailleurs montré qu'ils étaient en capacité de fédérer, en capacité de gagner. Ils avaient le potentiel pour cela. Et s'ouvre une nouvelle page pour moi qui va nous lancer collectivement, parce que là aussi c'est un collectif, vers la primaire des écologistes en septembre. Je vais continuer à sillonner la France, comme je l'ai fait là en soutien à nos candidats un peu partout, pour écouter, pour partager, pour rencontrer. Je trouve que j'ai profondément en moi ce travail collectif. Et donc il faut le tisser, le mêler. Et donc c'est ce que je vais faire en ayant toujours un axe sur l'économie. Moi c'est mon ADN, j'ai travaillé 18 ans dans l'industrie. Un sur les quartiers populaires et les milieux ruraux que je vais rencontrer. Un sur l'alimentation, les questions du vécu en fait, hein, le logement. Et j'irai aussi à la rencontre cet été des Français et des Françaises qui ne partent pas en vacances. C'est mon agenda pour cet été.
Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Chef du service politique de France Inter, la course à la présidentielle a bel et bien commencé dans ce qu'on appelle le pôle écologiste, et dans un climat assez orageux. Les candidats à la primaire peuvent se déclarer à partir de vendredi et jusqu'au 12 juillet. Mais tout le monde, Yael, n'est pas convaincu de la pertinence de cette primaire.
Non, Bruno, vague verte au municipal, poussée écolo au régional, deux fois plus d'élus qu'en 2015. Mais c'est maintenant que le plus dur commence, la sélection dans un mouvement marqué par une grande biodiversité. Éric Piolle n'est pas le premier déclaré. L'économiste lilloise et ex-numéro 2 des Verts, Sandrine Rousseau, avait déjà ouvert le bal à l'automne. Piolle, qui la joue union des gauches, un arc qui irait des insoumis aux socialistes inspiré par ce qu'il fait dans sa ville, Grenoble. Sauf que c'est d'abord la base verte qu'il faudra convaincre. Avec quel corps électoral? 20 000 ou 100 000 militants? La primaire de septembre n'aura d'intérêt que si elle mobilise large. C'est l'inquiétude du camp Jadot, Yannick Jadot, l'eurodéputé, favori à gauche des sondages, dont les adversaires Piolle et Rousseau contestent la portée. L'accélération de Piolle va l'obliger à bouger lui aussi. La déclaration officielle de candidature à l'élection présidentielle de Yannick Jadot, nous dit-on, est imminente. Dans la primaire, s'il y en a bien une, en dehors s'il le faut. Pourquoi s'il y en a une? Parce que depuis dimanche, ça grince chez les partenaires d'ELV pour la primaire. Le parti de l'ex-ministre Delphine Batho ou celui de Corinne Lepage regrette les stratégies d'union au deuxième tour des régionales, union à gauche. Réunion de crise jeudi. Si tout le monde reste groupé, Yannick Jadot ne pourra pas s'extraire des règles collectives. Si ça tangue, il aura des arguments à faire valoir.
Merci Yael Goz. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, annonce le lancement d'une mission d'information sur l'abstention régionale et au départemental. Il veut aussi voir quels moyens techniques permettraient de faciliter l'expression du vote. Et puis la commission des lois du Sénat appelle les maires à témoigner. Consultation en ligne sur les erreurs et les ratés dans la distribution de la propagande électorale. Et avant d'aller plus loin, un petit correctif. Mathieu Van Der Poel, certes petit-fils de Raymond Poulidor, mais néerlandais et non pas français, évidemment. Il y a encore et toujours plus de détenus dans les prisons françaises que de places disponibles. 66 591 selon les derniers chiffres pour un peu plus de 60 000 places. L'année dernière, quelques semaines avaient fait exception à ce phénomène récurrent de surpopulation carcérale pendant le premier confinement. Depuis, l'Aurélie qu'arrive, les chiffres sont repartis à la hausse. Pourquoi cela?
Eh bien parce que la machine judiciaire a retrouvé son rythme habituel pendant le premier confinement. Pour éviter une flambée épidémique, les juges avaient prononcé des mesures de libération anticipée, sans oublier le fait que l'activité des tribunaux avait été réduite de façon drastique. Si bien qu'en trois mois, les prisons françaises comptaient 13 000 détenus de moins. Ça n'aura été qu'une parenthèse. On devrait retrouver d'ici l'automne le niveau d'avant la crise sanitaire. Cécile Marcel, la directrice de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, regrette que l'exécutif n'ait pas su saisir la balle au bon.
Il y a eu une forte mobilisation de l'ensemble des professionnels de la justice, de membres de la société civile et des personnels pénitentiaires à l'issue du premier confinement pour dire que on avait enfin une situation dans les prisons avec une population qui était maîtrisée, des conditions de détention qui étaient améliorées, des conditions de travail pour les personnels qui étaient améliorées aussi, et qu'il fallait se saisir de cette opportunité pour ne plus renouer avec l'inflation carcérale. mais ce n'est pas les orientations qui ont malheureusement été prises par le gouvernement à ce moment-là. Donc, il y a eu malheureusement une occasion manquée.
La prison, dit-elle, est une illusion sécuritaire, une machine à produire de la récidive. L'OIP plaide pour des mesures alternatives, comme des peines de sursis probatoires, plutôt que venir surcharger des établissements pénitentiaires déjà pleins à craquer, 108% d'occupation, 128% dans les maisons d'arrêt, et alors que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions indignes de ces prisons.
L'économie, faut-il relever rapidement l'âge de départ à la retraite? Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, plaide pour un relèvement rapide. C'est 62 ans aujourd'hui, cela pourrait passer à 64. C'est une bien triste ironie de voir un homme prix Nobel de la paix engagé dans une guerre qui provoque famine et donne lieu à des exactions sur les civils. C'est en Éthiopie depuis 8 mois, entre le régime d'Abiy Ahmed, Nobel pour la paix avec l'Érythrée, et des forces dissidentes dans la région éthiopienne du Tigré. Les rebelles viennent de conquérir la capitale régionale Mekele, alors que le gouvernement central appelle à cesser le feu et se retire de la ville. En Éthiopie, pour France Inter, Noé Ochebaudin.
Le retrait de l'armée éthiopienne hier après-midi a créé un vent de panique. Toutes les communications ont été coupées. Les téléphones satellites des organisations humanitaires ont eux été confisqués par les militaires éthiopiens. Alors que Mekele se retrouvait une nouvelle fois dans le noir, les soldats éthiopiens se sont donc retirés de la ville et avec eux, les officiels de l'administration provisoire du Tigré, une autorité politique mise en place par Addis Abeba. Les forces rebelles tigréennes ont par la suite investi la ville. Des cris de joie et des feux d'artifice pouvaient être entendus à Mekele. La nouvelle configuration militaire a donc forcé l'armée éthiopienne à battre en retrait. Dans la foulée, le gouvernement éthiopien a lui demandé un cessez-le-feu, officiellement pour permettre aux agriculteurs de labourer en paix et ensuite pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Mais cette idée de cessez-le-feu avait déjà en réalité été soulevée le week-end dernier. Le ministère des Affaires étrangères avait déjà contacté plusieurs ambassades occidentales pour mettre en place des pourparlers. Addis Abeba, Noé Ochebaudin, France Inter.
Un ancien président condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice, c'est Jacob Zuma en Afrique du Sud. Il est sous le coup d'enquête pour corruption d'État. En Argentine, fin des auditions hier dans l'enquête sur la mort de Diego Maradona. Son médecin personnel était le dernier accusé à être entendu par les procureurs. En Argentine, pour France Inter, Caroline Vic.
Leopoldo Luque, 39 ans, costume bleu marine et lunettes de soleil, est entré hier apparemment détendu au parquet de San Isidro. Le neurochirurgien a d'abord présenté un texte, puis a répondu aux questions des procureurs. Il a expliqué être un médecin ami de Diego Maradona et non son médecin traitant. Il s'est aussi dit choqué du délit pour lequel on l'accuse, pour homicide volontaire. Julio Rivas, l'avocat de Leopoldo Luque.
C'est de la folie. Aucun médecin ne peut dire qu'il a l'intention de tuer son patient. Luque était le médecin personnel de Maradona. Il s'occupait de la santé de Maradona et il lui recommandait tous les médecins. Contrairement à ce qui se dit, tous les examens cardiologiques ont été faits et tout semblait normal. En plus, une hospitalisation à domicile est régulée et dans ce cas, c'est une entreprise privée qui s'en occupait et qui mettait à disposition ses médecins et ses infirmiers. Donc, il y avait des médecins qui suivaient Maradona, mais ils ne faisaient aucun rapport à Luque.
Et tout comme les autres accusés, Luque a donc rejeté la faute sur l'autre et nie avoir une responsabilité dans la mort de Maradona. Pour le moment, les 7 accusés ont l'interdiction de sortir du territoire. S'ils sont inculpés, les procureurs peuvent ordonner une détention provisoire ou demander le paiement d'une caution en attendant un futur procès. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
Ils ont pris soin de ces malades pendant de longs mois et les voient partir avec fierté et émotion. Les spécialistes de restauration de Marsac-sur-l'Isle en Dordogne ont fini leur travail sur les 16 statues de la flèche de Notre-Dame de Paris. Coïncidence qui renforce l'attachement. Ces statues leur avaient été confiées quelques jours avant l'incendie d'avril 2019. Marc Bertrand, elles ont été chargées hier dans un camion, direction Paris.
Les statues sont alignées sur des palettes en bois devant le camion prêt à partir. Marie-Dominique touche une dernière fois Saint-Jean, un grand aigle en cuivre.
J'ai passé un chiffon, un dernier coup de chiffon pour qu'elle brille un peu plus. C'est vraiment... vraiment spécial ce rapport qu'on a avec ces statues.
Chacun des ouvriers a sa statue préférée. Olivier, le chaudronnier, a pris l'habitude de les voir tous les matins. C'est lui qui est venu les chercher quelques jours seulement avant l'incendie de la cathédrale.
Alors, les premiers temps, juste après l'incendie, on les regardait d'un certain œil en se disant, wow, quelque part, on est un peu les gardiens. Puis voilà, et de les voir partir, ça y est, c'est les dernières. Donc on se dit, c'était un super job ça. Donc là, on remet la protection sur Saint-Jean. Sur l'aigle, on fait le paquet cadeau pour la cité de l'architecture.
trois coups d'agrafeuse, la statue de Saint-Jean est entièrement bâchée, prête à charger dans le camion.
Ça aura été le chantier de notre vie. Je ne serai plus là pour voir les prochains qui vont les restaurer. Peut-être nos petits-petits-fils, je ne sais pas, on verra. Ça marque une vie.
Les 16 statues seront exposées à la Cité de l'Architecture à Paris le temps que Notre-Dame soit reconstruite. Olivier viendra les voir régulièrement. Et il ne manquera pour rien au monde le jour où elles retrouveront la flèche de la cathédrale.
Et d'autres beaux chantiers attendent les hommes et femmes de Marsac-sur-l'Isle, celui de la restauration du Grand Palais à Paris notamment.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore et toujours des orages.
Oui, sur une grande partie du pays en effet. Alors on a bien quelques éclaircies appréciables de temps en temps, mais ce sont vraiment les nuages qui l'emportent. Des averses, des orages peuvent éclater. Ils sont plus forts ces orages localement sur la Bourgogne-Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace, avec de la grêle et des rafales de vent possibles. En revanche, sur le nord-ouest, là le risque est moins important. D'ailleurs, la pointe bretonne reste à l'écart. Pour avoir un temps plus ensoleillé, on va vers le sud de Rhône-Alpes, vers la Méditerranée. Ça va s'arranger également sur le sud-ouest. Les averses vont s'éloigner dans l'après-midi. Et puis les températures, elles baissent. Comptez 17 à 22 degrés au nord, c'est frais. 19 à 23 sur le sud-ouest, sur le massif central. Jusqu'à 25 du côté de Rhône-Alpes et jusqu'à 31 en Méditerranée. Demain, on aura encore des averses orageuses sur les régions du nord, moins marquées tout de même. Et puis du soleil en allant vers le sud. Et après, ça s'arrange.
Élodie Calac, Météo France, merci beaucoup. La chronique Europe de Delphine Simon.
France Inter, le 13-14. Bruno Dini.
Et cet événement important en Europe, dans deux jours, le 1er juillet, la mise en place du pass sanitaire. Pour franchir les frontières, il faudra une preuve de vaccination, un test négatif ou un certificat d'immunité. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Vous allez nous détailler tout cela. Qu'est-ce qui change concrètement?
Alors, l'intérêt principal de ce pass européen, c'est qu'il va simplifier les contrôles aux frontières grâce à un QR code commun aux 27 pays, un QR code lisible et reconnu partout. En France, vous pourrez produire ce QR code sur papier, mais aussi via l'appli que vous connaissez déjà, tous anti-Covid, ce sera dans la case certificat. La norme européenne du QR code va se substituer à celle que nous connaissons en France grâce à une simple mise à jour disponible en fin de semaine sur l'appli. Avantage, lors des contrôles aux frontières, les policiers ou les contrôleurs pourront vérifier plus facilement que votre attestation est une preuve valable. Ça permettra notamment de fluidifier les contrôles dans les aéroports. ADP prévoit cet été de revenir à la moitié du trafic voyageurs d'avant 2019. C'est la Commission européenne qui conservera les clés publiques qui valident les signatures de chaque État. Il y en aura 5 clés pour la France, 10 000 pour l'Allemagne.
Alors jusque-là, ça semble simple, sauf que les règles ne seront pas les mêmes partout.
Non, il va falloir faire très attention, car les certificats exigés ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. C'est à géométrie variable. Si vous partez à l'étranger, il est donc indispensable de vérifier vous-même s'il vous faut un test PCR ou antigénique, une preuve de vaccination. Dans ce cas, sachez que certains pays considèrent que vous êtes vacciné dès la deuxième injection, sans attendre le délai de 15 jours, comme en France. Bref, mieux vaut se méfier, d'autant que les règles risquent de se durcir cet été avec l'arrivée du variant Delta, l'ancien variant indien, deux fois plus contagieux que la souche.
Un variant qui va jouer les troubles faits cet été.
Oui, c'est vrai que ce nouveau pass européen ne va pas de soi, car ce variant très contagieux ravive les tensions entre les pays qui considèrent la relance du tourisme comme une priorité absolue et les partisans d'une précaution maximale. L'Allemagne, par exemple, s'inquiète de l'arrivée de touristes britanniques cet été sur les plages portugaises, alors que le variant indien est désormais majoritaire au Royaume-Uni. Lisbonne vient d'ailleurs de prendre de nouvelles mesures de restriction. Paris et Berlin, de leur côté, font aussi les gros yeux à la Grèce et à l'Italie qui acceptent les vaccins chinois et russes, dont l'efficacité fait débat. Enfin, l'Europe vient d'ajouter les États-Unis à sa liste blanche, celle qui regroupe les pays dont les touristes sont les bienvenus en Europe. Problème ? Le variant indien est aujourd'hui responsable d'un tiers des cas de Covid aux États-Unis. Lundi, 35% des habitants de l'Union européenne étaient complètement vaccinés, contre 10% pour le reste de la planète en moyenne, avec de grandes disparités selon les continents. Tant que celles-ci perdureront, les tenants de l'enfermement et de la fermeture des frontières trouveront matière à se faire entendre.
Delphine Simon, la chronique européenne, le mardi dans le 13-14. Dans un instant, toutes vos questions sur le projet de loi bioéthique qui doit être définitivement adopté ce soir.
Poloïc, recyclé, ça coule de source. Sa dernière trouvaille est fabriquée avec des bouteilles plastiques recyclées. Vous voyez de quoi je parle? Je parle de son canapé. Et oui, sur camif.fr,
100% des meubles sont éco-conçus. Camif, changeons le monde de l'intérieur.
Frais bancaires cachés, corvée des notes de frais, conseiller injoignable. Pour faire face à tout ce stress, il y a plus efficace que ce gentil petit air de flûte. Il y a Conto, le compte qui change la vie des pros. Plus qu'un compte professionnel en ligne, Conto, c'est une gestion des notes de frais en temps réel, des tarifs 100% transparents à partir de 9 euros par mois et un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Forcément, vous allez être détendu. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
Il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
C'est une des réformes qui a mis le plus de temps à se concrétiser lors de ce quinquennat. Le projet de loi bioéthique doit être adopté définitivement ce soir au Parlement. Mesure phare, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Mais le texte va bien au-delà. Il réforme la filiation, autorise l'autoconservation des ovocytes pour des raisons autres que médicales, change les règles dans l'accès aux origines, facilite les recherches sur les cellules souches embryonnaires. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions sur ce texte complexe et important. Deux invités pour dialoguer avec vous. Joëlle Belaï-Chalard, présidente du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, et Jean-Louis Touraine, professeur de médecine et député En Marche du Rhône, rapporteur de ce projet de loi bioéthique. On va voir dans un instant les questions pratiques ouvertes par ce texte. Elles sont nombreuses. D'abord, c'est un moment important pour vous, Jean-Louis Touraine, là, dans les heures à venir.
Ah ben c'est l'aboutissement, en tout cas, de beaucoup d'années de travail. Nous avons eu pendant un an toute une préparation. Oui. Et puis pendant deux ans, des débats parlementaires. Et en ce qui me concerne, c'était des questions avec lesquelles j'étais déjà confronté depuis des dizaines d'années. Oui. Donc enfin, ça aboutit et je crois que c'est une bonne chose de mettre la France à l'unisson des pays développés qui, depuis une vingtaine d'années, ont déjà franchi ces étapes.
Juliette nous dit au standard, je trouve dommage que vous en occupiez seulement maintenant, nous sommes en retard par rapport à d'autres pays. La France avait un retard à rattraper en la matière, Madame Belaï-Chalard.
Tout à fait. Alors, les professionnels, nous sommes très heureux, comme Monsieur Touraine. Oui, je dis que nous sommes très heureux que cette loi voie enfin le jour, mais nous sommes un peu inquiets des décrets d'application et on a peur que le diable ne se cache dans les décrets. Donc oui, la France avait un retard sur l'autoconservation notable et bien sûr sur la prise en charge des couples de femmes et des femmes seules.
Alors, quel détail pourrait poser problème au moment des décrets d'application ?
Alors, le premier détail, qui n'en est pas un, je le crains, c'est l'autoconservation. Les détracteurs du projet ont voulu faire croire que les femmes qui avaient recours à l'autoconservation voulaient faire carrière et que c'était pour ça qu'elles faisaient une autoconservation. Alors que les enquêtes dans les pays où c'est autorisé montrent qu'à 80%, au moins, ce sont des femmes qui n'ont pas rencontré l'âme sœur, celui, parfois celle avec qui faire un enfant, et que c'est la raison majeure pour laquelle elles font une autoconservation. Dans le texte de loi, il est écrit quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Il est écrit que seuls les centres, lorsqu'ils y ont été autorisés, et les centres essentiellement publics ou privés à but non lucratif seront autorisés. Ce que nous souhaitions, nous, c'est que ce soit tous les centres. Il faut que vous sachiez que ce petit mot autorisé risque de poser vraiment problème. Il y a des autorisations pour pratiquer l'AMP, des autorisations cliniques, des autorisations biologiques. Il existe une autorisation pour préserver la fertilité pour raison médicale, mais seule une quarantaine de centres l'ont, et c'est dans le cadre essentiellement du cancer avant une chimiothérapie. Il faut bien savoir que si seuls ces 40 centres, et encore il y en aura moins parce qu'il y a des privés dedans, sont autorisés, c'est une fausse autorisation qui va être donnée, parce que les femmes ne seront pas prises en priorité, l'autoconservation dite de convenance, et seuls les centres qui ont une préservation pour cancer continueront à travailler pour les femmes qui ont un cancer et c'est bien naturel. Et donc, c'est vraiment notre angoisse à tous les professionnels. Il faut que tous les centres autorisés à l'AMP, alors peut-être dans un premier temps public, mais on aimerait bien public et privé, puissent réellement pratiquer l'autoconservation. Sinon, ce sera une autorisation factice et nos patientes vont continuer à aller à l'étranger dans un centre privé.
Alors,
c'est franchement pas tout à fait juste.
AMP pour assistance médicale à la procréation, autre nom de PMA. Précisons les choses, tout ça est très complexe, Jean-Louis Touraine. L'autoconservation, c'est l'autoconservation des ovocytes. Jusque-là, c'était très encadré, il fallait avancer des raisons médicales. Aujourd'hui, une bonne partie de ces limites sont levées. On peut conserver des ovocytes pour des raisons personnelles, pour reporter à plus tard un projet d'enfant, c'est bien cela.
Exactement, et comme ça vient d'être dit, ouais. Beaucoup de femmes par exemple, à 35 ans, ne sont plus en couple stable avec avec un homme, et pour autant, elles ont envie, plus tard, de fonder une famille, le jour où elles auront rencontré leur prince charmant. Et donc,
est-ce qu'il y a une limite d'âge qui est fixée pour l'autoconservation de ces ovocytes ?
Ce sera un décret qui fixera, parce que les limites d'âge, toutes les limites d'âge qui sont autour de la procréation, femmes et hommes confondus, oui, toutes ces limites d'âge peuvent varier avec l'évolution des techniques, les progrès, etc. Et donc tout ceci sera l'objet d'un décret qui peut être adapté au fil des années. Donc ces femmes, oui, elles veulent recourir à cela pour pouvoir différer leur projet, puisque à 40 ans, quand elles voudront faire leur grossesse, leurs ovocytes seront déjà un peu vieillis et moins fécondables. Et donc elles risquent de pas pouvoir le réaliser. Alors que si elles utilisent les ovocytes qu'elles ont congelés à 35 ans, ça sera de meilleure qualité et plus efficace. Et donc, il est clair que, et j'adhère à ce qui vient d'être dit, il faudrait que toutes les femmes qui en ont besoin, qui le nécessitent, puissent y avoir accès. Et pour l'instant, effectivement, il y a un peu trop de limites, un encadrement un peu dur. C'est pourquoi, moi, j'ai combattu et pu faire insérer un amendement qui permet au moins que dans les départements où il n'y a pas un centre public susceptible de le faire, ceci soit fait par un établissement privé, s'il existe dans ce département. C'était vrai pour certains départements de métropole, où il n'y a pas actuellement d'hôpital public qui réalise cela. Mais c'est surtout vrai en Outre-mer, où il y a des territoires importants, où il n'y a pas d'hôpital qui soit habilité. Et donc, il faut bien, dans ces cas-là, donner une dérogation. Sinon, ça crée une injustice entre les femmes, certaines ayant droit à ce progrès et d'autres non.
Un mot pour expliquer, Jean-Louis Touraine, pourquoi les centres publics, pour éviter, pour le dire très vite, qu'il y ait un marché du vivant qui se développe.
Complètement. Mais ceci est déjà encadré, même quand c'est fait dans un établissement privé à but non lucratif ou un autre établissement, parce que c'est sous l'égide de l'Agence régionale de santé, c'est avec une autorisation spécifique, il n'y a pas de possibilité de dépassement d'honoraires, donc tout est fait comme dans le service public, pour cette activité-là. Donc, si un établissement privé, à but non lucratif ou non, qui le développe quelque part et qui a l'autorisation de l'ARS, c'est avec un contrôle minutieux et il le fait exactement dans les mêmes conditions qu'un hôpital public.
Alain, au Standard de France Inter, bonjour Alain.
Oui.
Nous vous écoutons.
Oui, je suis Alain, donc je suis un donneur de sperme assez ancien, puisque j'ai donné mon sperme en 1974 sur proposition des médecins qui demandaient donc des dons de sperme pour soigner l'infertilité de certains couples. Donc volontiers, j'ai accepté. Et bon, pendant très longtemps, je me suis pas posé la question de savoir si les personnes nées grâce à mes dons cherchaient à savoir qui j'étais. Et j'ai découvert il y a donc une quinzaine d'années que certains d'entre eux souffraient gravement de cet anonymat qui leur manquait, il manquait donc un élément dans le puzzle de leur vie. Et donc depuis, je me suis senti donc responsable de cette situation et j'ai fait des tests ADN pour leur faciliter les éventuelles recherches. J'espère que, avant de finir ma vie, les personnes nées grâce à mes dons vont pouvoir savoir que c'est moi.
Jean-Louis Touraine, alors la question d'Alain porte sur les règles d'accès à l'origine qui changent. Les enfants nés d'un don à leur majorité pourront demander l'identité du donneur. Est-ce que c'est rétroactif pour quelqu'un comme Alain ?
Non, ce n'est pas rétroactif et je suis très content que Alain soit là au téléphone parce que je vais lui suggérer éventuellement de reprendre contact avec le centre où il a donné, de telle sorte que les enfants qui peut-être vont naître après, parce que les paillettes de sperme ont été congelées et peut-être qu'elles vont être utilisées dans les années futures. Et donc, ces enfants qui naîtront plus tard, si lui, il précise qu'il est d'accord pour qu'ils aient des contacts avec lui, eh bien, cela sera entériné et ces enfants, lorsqu'ils atteindront 18 ans, seront susceptibles d'être rassurés sur leurs origines et de se construire. Parce que ce qui vient d'être dit est très très juste. Pour se construire, il faut avoir des connaissances sur ses origines. Vous savez, un arbre, il ne tend pas ses branches vers le ciel s'il n'a pas des racines profondes, solides. Eh bien, un humain, c'est pareil. Si l'humain ne sait pas d'où il vient, il a de la peine à s'organiser pour se construire en futur.
Joël Belaïch, alors est-ce que vous redoutez que cette disposition se traduise par une baisse des dons? C'est une des vraies questions sur l'application concrète de ce projet de loi bioéthique. Le manque de donneurs, est-ce que vous redoutez notamment que cette, entre guillemets, alors pas levée de l'anonymat, parce que c'est pas exactement ça, mais la possibilité de connaître l'identité du donneur, se traduise par une baisse des dons?
Dans un premier temps, il est probable que oui, c'est ce qui s'est passé dans à peu près tous les pays étrangers. Mais ensuite, il semble bien, si nous, en France nous sommes comme les autres, ce qui reste à démontrer, que les dons reprendront de la même façon. Et puis, ce n'est pas une levée de l'anonymat.
Je pense
qu'il
faut
le présenter effectivement autrement.
Le don reste anonyme au départ. Au moment du don, les futurs parents ne peuvent pas choisir leur donneur et le donneur ne peut pas choisir à qui lui-même donne.
Il reste anonyme pour la société. La seule personne pour qui ça n'est pas anonyme, c'est l'enfant qui naît. Mais le reste de sa famille ou le reste de son environnement n'est pas informé de l'identité du donneur. Seulement l'enfant a accès à ses origines s'il le souhaite.
Joël Belaïch, question tout de même sur le manque de donneurs. C'est une vraie question dans l'application de ce projet de loi.
Alors, c'est la deuxième angoisse, c'est ce que nous avions beaucoup porté auprès des parlementaires, le collège. Actuellement, quand un couple hétérosexuel pour une infertilité masculine sévère doit avoir recours à un sperme de donneur, le délai moyen d'attente, quand on envoie à la seule banque autorisée en France les sécos, est de l'ordre de 1 an avant d'obtenir des paillettes. L'agence de biomédecine a estimé à 2000 le nombre de nouvelles demandes avec l'autorisation pour les femmes seules non mariées, d'après le terme de la loi, ou les femmes en couple, désormais. Nous nous demandons comment, si maintenant on a des patientes qui viennent et qu'on reçoit dès que la loi et les décrets d'application sont passés, on va les envoyer à la banque au SECOS et quel sera le délai d'attente? Il ne peut pas être meilleur, ou alors il faudrait qu'il y ait des réserves en cachette et ça ne nous a jamais été précisé. Je voudrais apporter une toute petite précision. En Belgique, puisque toutes nos patientes allaient, beaucoup de nos patientes allaient en Belgique quand elles avaient besoin pour un couple de femmes d'avoir recours à un don de sperme. Les Belges reconnaissent utiliser les banques de sperme étrangères et en particulier les banques danoises, ce qui n'est pas possible dans la loi française, semble-t-il. Dans ces conditions, oui, nous sommes tout à fait inquiets de la réalité de l'application de cette mesure, tout comme de la réalité de l'application de l'autoconservation ovocytaire, car si j'ai bien entendu M. Touraine, seuls les centres autorisés à la préservation médicale vont être autorisés, c'est-à-dire moins de 40 centres, et ça veut dire qu'en fait, les femmes ne seront pas possibles, ne pourront pas faire d'autoconservation ovocytaire en France avant un délai d'attente, et qu'elles devront toujours aller à l'étranger. J'en suis vraiment profondément désolé.
Allez, je voudrais qu'on arrive à passer encore deux questions dans ces sujets très complexes et qui demandent du temps, évidemment. Marie au standard. Question courte, s'il vous plaît, Marie.
Bonjour, messieurs.
Bonjour,
monsieur, je m'interroge. Je ne comprends pas pourquoi la Sécurité sociale prend en charge la PMA, par exemple.
Jean-Louis Touraine, votre réponse.
Attendez, je veux finir.
Allez-y.
Une demi-phrase. Imaginons que je me mette à la Sécurité sociale et que je dise, moi, j'ai absolument besoin d'une maison au bord de la mer parce que je vais faire de la dépression nerveuse. Est-ce que la Sécurité sociale va la prendre en charge?
Jean-Louis Touraine, merci. Alors, Marie, pour cette question. Pardon de vous avoir un peu bousculé.
Ce qu'on appelle à tort l'assurance maladie est en fait une assurance santé. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il vaut mieux préserver la santé que d'entretenir des maladies. Eh bien, l'assurance santé de la Sécurité sociale prend en charge non seulement les soins curatifs, mais le maintien de la santé, c'est-à-dire l'état de bien-être physique, mental et social. Donc, la Sécurité sociale, déjà, nous prend en charge nos vaccinations, c'est pas le traitement d'une maladie, prend en charge des actions préventives de maladies, prend en charge l'IVG, l'IVG c'est pas un traitement curatif, prend en charge des certaines opérations qui sont d'autres natures que strictement d'importance médicale. Et d'ailleurs, pour les PMA, elle prend en charge les PMA dans les couples hétérosexuels quand il n'y a pas de stérilité. Simplement parce qu'un couple n'arrive pas à procréer, il demande l'aide de la PMA, il a un enfant de cette façon-là, et puis quelques années après, ils ont un enfant naturel, ça prouve bien qu'ils n'étaient pas stériles. Donc, il est tout à fait important que il n'y ait pas d'inégalité entre les couples hétérosexuels et homosexuels. Mais déjà aujourd'hui, d'ailleurs, une partie des frais de la PMA dans les couples de femmes sont pris en charge par la Sécurité sociale, puisque quand une femme va en Belgique, comme ça vient d'être indiqué, les examens qui se font avant peuvent se faire en France, remboursés par la Sécurité sociale, pris en charge. Et une fois que l'enfant sera né en Belgique et que les gens reviendront en France, eh bien, tous les frais seront pris en charge naturellement par l'assurance maladie ou assurance santé. Donc vous voyez bien que c'est un cas qui n'est pas particulier, qui est très général. Notre assurance santé prend en charge tout ce qui nous permet d'avoir des meilleures conditions de santé, que l'on soit hétéro, homo ou femme seule.
Merci Jean-Louis Touraine et merci Joël Belaïch-Allard. Il y aurait encore beaucoup de questions, mais on arrive déjà au terme de ce quart d'heure d'interview. On aura sûrement l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions ici ou ailleurs sur France Inter. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
À suivre dans 10 minutes le vif de l'histoire, les maisons à la campagne. On retrouvait beaucoup de charme après les mois de confinement. Ça vous inspire une chronique?
À cause de la réédition de Pierre Desfontaines, L'homme et sa maison.
À tout à l'heure. Avant cela, le feuilleton. Nous passons la semaine avec Sabine Weiss, la grande photographe. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
À votre micro aujourd'hui Frédéric, le temps d'une chanson, le journaliste, scénariste, dialoguiste, écrivain Laurent Chalumeau qui, 30 ans après Fuck, son tout premier livre, publie chez Grasset son 14e roman.
Une histoire de cul et de cœur au pays des cow-boys. C'est avec cette phrase que Laurent Chalumeau va résumer son roman avant d'ajouter « C'est un peu du Anna Gavalda au Far West en me souhaitant les mêmes ventes. »
Oui, ça je comprends.
En l'occurrence, l'histoire est celle d'une quadragénaire américaine qui, séparée de son procureur de mari, décide de renouer avec une sexualité quelque peu débridée. Il y a de jolies rencontres pour elle et d'autres plus dangereuses. Rapidement, sa vie repolar. Un polar féministe rythmé par une playlist de country folk essentiellement féminin. J'ai adoré la langue, le style survolté de Laurent Chalumeau. J'ai adoré ce livre. Son titre, c'est Vice.
Ça s'écrit Vice, mais en fait c'est Vice, comme une chanson de Miranda Lambert, une chanteuse de country très connue aux États-Unis et rigoureusement inconnue en France, comme de juste. En fait, il y a un paradoxe dans la musique country, ça c'est endémique, c'est pas juste aujourd'hui, mais aujourd'hui encore. Certains des disques les plus intéressants sont fournis par des artistes féminines qui écrivent, composent et interprètent des chansons absolument formidables, et elles représentent au mieux un quart des passages radio. Sur les radios spécialisées. C'est-à-dire que là, c'est un patriarcat de fait. Le principe du deux fois plus. C'est-à-dire que une femme doit être deux fois plus compétente. Pour obtenir moins de passages radio, il faut qu'elle écrive des chansons deux fois meilleures. Et donc, Miranda Lambert, elle a réussi quand même à force de talent. Et d'une certaine façon, c'est en partant de la chanson Vice que le roman m'est venu.
Vice de Miranda Lambert, la chanson inspiré le livre de Laurent Chalumeau.
Une chanson de 2016 qui raconte finalement ce que vit son héroïne dans le livre, à savoir l'envie de profiter de la vie et surtout vivre ses envies.
C'est une chanson qui chronique l'incapacité qu'on connaît tous plus ou moins à ne pas céder à la tentation. C'est une chanson qui, d'abord et avant tout, chronique la faiblesse de la chair et l'incapacité de nos volontés à nous contrôler nous-mêmes. Donc voilà, c'est un thème porteur. Il se trouve que Miranda Lambert, comme elle est texane, c'est une enfant de la country, elle connaît ses classiques, mais c'est aussi quelqu'un qui a baigné avec du rock dans l'autre oreille. Ce qui débouche sur une musique qui, d'ailleurs, pour certains puristes, peut paraître un peu hybride, mais moi, ça m'emmène vers un Far West ou vers un Sud-Ouest américain, stylisé, fictivé, idéalisé. Et comme dirait l'autre, ça me parle.
Qu'est-ce qui vous touche, vous, dans la musique country ?
Alors, en fait, quand j'étais gamin et adolescent en France, et que j'étais fan de rock, je considérais comme un geste politique de détester la country par bien-pensance, parce que j'étais convaincu que la country était une musique réservée au Ku Klux Klan ou aux Rednecks. Et puis, je suis allé m'installer aux États-Unis pendant 7 ans. Et là, je me suis aperçu que la country était un univers beaucoup moins manichéen. Et entre autres, que certes, il y avait des bêta-cornes et des proto-trumpistes avant la lettre, mais il n'y avait pas que ça.
Là, vous avez commencé à vous y intéresser.
C'est ça, j'ai commencé à m'intéresser à la country en voyageant à travers les États-Unis. Parce que j'ai l'impression que si on cale bien sa vitesse, les poteaux télégraphiques battent la mesure. C'est vraiment une musique qui colle bien au paysage.
De Miranda Lambert, chanteuse country. C'était donc le choix de Laurent Chalumeau, Frédéric.
Et ça colle bien avec le paysage, ce titre Vice, même titre que son livre qui vient donc de paraître aux éditions Grasset.
Merci Frédéric Pommier, à demain.
À demain.
Dans le feuilleton jusqu'à vendredi, nous avons la chance de passer la semaine avec la grande photographe Sabine Weiss, elle qui incarne l'école humaniste de la photo avec Robert Doisneau. Elle aura 97 ans le mois prochain, elle sera à l'honneur des rencontres photographiques d'Arles qui commencent ce week-end. Et elle retrace sa vie au micro d'Isabelle Pasquier, installée dans sa maison parisienne. Hier les débuts, premier appareil photo à 11 ans, puis un peu plus tard les premières images exposées au MoMA à New York. Aujourd'hui une rencontre importante dans sa vie, le sculpteur Alberto Giacometti.
En tant que photographe, les portes étaient ouvertes quand même. Giacometti a beaucoup habité Paris assez tôt dans sa vie, mais surtout à Genève où il habitait, où j'habitais moi aussi. Donc j'ai bien connu Giacometti déjà à cette époque. Et quand on est tous revenus à Paris, on s'est retrouvés et j'ai été très amie avec la femme de Giacometti.
Vos photos dans son atelier sont saisissantes parce que on a l'impression que vous n'existez pas, que vous le saisissez.
Avec Giacometti, on pouvait continuer à discuter, à parler, ça ne gênait pas.
Vous le photographiez en train de sculpter, il a les mains qui malaxent la matière. Est-ce que ça, c'est impressionnant pour vous ?
J'étais impressionnée par déjà la beauté du personnage. Je ne réalisais pas à l'époque que j'étais subjuguée. Et puis, comme il s'en fichait quand on le photographiait, si ça vous plaît de photographier, vous photographiez. Et donc, tout était très naturel. Lui, il continue à parler, à discuter, à chercher, à malaxer sa terre. Et l'atelier était formidable. Tout était rempli d'une poussière de la même couleur. C'était très, très, très curieux. C'était gris, et au fond de l'atelier, il y avait un petit arbre qui poussait, qui venait de la rue, mais qui avait fait un trou dans la maison, parce que c'était très très délabré, pas entretenu quoi. C'était un homme qui n'avait pas du tout besoin du luxe ni de rien. Il continuait à travailler dans ce petit atelier avec cette branche merveilleuse qui au printemps était claire et jolie.
Il y a une photo aussi très émouvante, c'est celle de François Sagan, qui est par terre, qui écrit visiblement « Bonjour tristesse » en tapant son texte à la machine.
Oui, c'est pour le premier texte qu'elle avait écrit. Je crois que c'était Vogue qui m'avait demandé cette photo, donc elle était toute jeune. Je me rappelle d'un jour où je devais la photographier, et on s'était rendez-vous à je crois que c'était 2h du matin, à la sortie d'un club à Montparnasse, quelque part. Pas ce soir, non. Demain, vous voulez, demain ? Oui, si vous voulez, je reviens demain. Je crois que c'était 3h. Donc, j'y suis allée, parce que ça ne me gênait pas d'aller à 3h du matin. De toute façon, il n'y avait pas grand monde dans les rues, alors ça, c'était pas dangereux.
Alors, Catherine Deneuve.
Oui, ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette femme. J'avais une demande de la photographier, je crois que c'était pour Vogue. Et donc, j'avais rendez-vous au Ritz, et j'ai attendu des heures. Elle était toujours en train de se faire maquiller, de se faire arranger. Et quand elle est arrivée chez moi pour faire la photo, elle m'a dit « Dépêchez-vous ». Et je n'ai pas encaissé. Et en plus, il fallait, maintenant je me souviens, il fallait que je lui montre les photos avant de les publier. Ça, personne dans ma vie m'a jamais fait une phrase comme ça, que je n'ai pas fait naturellement. Je ne vais pas aller obéir à Madame Deneuve.
Vous avez des souvenirs, Ella Fitzgerald, par exemple ?
Je crois qu'il ne fallait pas la photographier de trop près. Elle avait peur, parce qu'elle était très grosse, et elle avait peur qu'on profite de cette obésité.
Mais est-ce que vous aviez la même émotion que quand vous captez des instants de vie sur le vif dans la rue ?
Non, mais ben, j'avais un autre plaisir, c'est d'avoir fait la photo d'une star et de l'avoir fait comme je voulais la faire.
La photographe Sabine Weiss avec Isabelle Pasquier. Prochain épisode du feuilleton demain.
France Inter, le 13-14.
Entre mois de confinement et appel au vert, la maison a retrouvé beaucoup de charme ces derniers mois. Jean Lebrun, dans le cadre du Vif de l'Histoire, c'était le moment de s'intéresser à un classique qui vient d'être réédité, L'homme et sa maison de Pierre Desfontaines.
Alors c'est un des derniers livres, 1972, de ce vieux maître de la géographie humaine française qui recommandait de voyager les yeux ouverts et accompagné d'une carte. Il avait théorisé l'excursion géographique et on parlait d'ailleurs des promenades des fontaines. Le vélo lui en paraissait être l'instrument idéal. Vous savez, vous faites semblant de crever, vous attirez l'attention et avec un peu de chance, vous entamez une conversation qui se terminera peut-être par une collation. De Fontaines utilisait aussi l'appareil photo et surtout le carnet à dessin et la boîte à couleurs. La réédition de L'homme et la maison vaut par le texte et par les aquarelles nombreuses qu'il y avait glissées.
Tous les moyens de représentation sont bons pour fixer la trace des maisons qu'on pourrait dire traditionnelles, celles qui sont aujourd'hui les plus recherchées sur le marché de l'immobilier.
Alors De Fontaines, il n'emploie guère l'adjectif traditionnel parce que la tradition est sans cesse refabriquée. Il emploie le mot feu. Vous savez, comme dans « couvre-feu ». Le feu, c'est la preuve de la présence de l'homme. La maison est désignée comme un feu. Quand dans le Lot-et-Garonne, le terrain de sa thèse, plusieurs ménages y sont groupés, on parle d'étincelles. Lorsque le feu pénètre dans la maison, c'est le signe de l'appropriation. On est chez soi dès lors que la fumée sort de son toit. Le feu, c'est aussi la lumière. Il permet de s'affranchir des oreilles du soleil. Et le feu, c'est la chaleur. Certes, on peut faire encore, comme en 1960, dans le village le plus haut de France, Saint-Véran, les tables dans la pièce commune et les moutons sous le lit pour tenir chaud, mais enfin, rien ne remplace le feu.
Oui, mais le feu, c'est aussi un danger dans la maison.
Alors, Desfontaines étudie et illustre les différentes méthodes qui permettent d'en diminuer les risques. La disposition de la maison du Haut-Jura a beaucoup retenu son attention. Le feu se tient au milieu de l'espace central, qui est surmonté d'une vaste hotte qui peut atteindre 12-15 mètres de haut. La hotte débouche sur le toit par un vaste orifice muni de deux vantaux qu'on peut ouvrir ou fermer. Ça évite d'être envahi par la fumée. Pour ne pas boire la fumée, dit un proverbe, manger la terre, enfin respirer au ras du sol. Non, dans la maison jurassienne, regardez vers le haut ce que vous avez cuit dans la braise. Le brésil, vous pourrez le suspendre à l'aide d'une perche le long de la hotte. Et ainsi, fumé, le brésil deviendra du tué. Très prisé, votre cheminée sera une boucherie que le voisinage viendra visiter.
Donc la maison, c'est le feu, c'est l'eau aussi.
Alors pas seulement pour éteindre l'incendie qui vient si vite. La maison du Haut-Jura s'aménage des toits immenses pour couvrir l'hiver les domiciles des bêtes autant que ceux des hommes. Et les animaux ont soif. Le toit est aménagé de telle façon qu'il alimente différentes citernes. On ne perd rien de l'eau issue des pluies et des neiges. Pierre de Fontaines a longtemps enseigné au Québec et il a bien vu les problèmes qui posaient cette eau dans les maisons du Canada français, qui avaient été construites sur le modèle de vos maisons de l'ouest de la France, Bruno. Celles que sur le marché immobilier, on appelle aujourd'hui les longères.
Ouais.
En pierre, pour ne pas prendre feu, avec une cheminée inscrite dans la maçonnerie du mur pignon. Mais au Canada, l'humidité pénétrait la demeure. Et de surcroît, celle-ci, n'étant pas construite sur une cave, quand venait le dégel et qu'il mouillait à boire debout, ben, la longère flottait littéralement sur la fange. La fonte a permis de domestiquer le feu en l'enfermant au centre, dans un poêle, une fournaise. Et le bois, meilleur protecteur contre le froid que la pierre, a pu constituer les murs, pour peu que les maisons soient suffisamment distantes les unes des autres. Alors, on pourrait croire que l'arrivée du chauffage central a définitivement uniformisé les maisons, devenues des machines à habiter, construites avec des produits tous usinés, mais maintenant, on nous explique que c'en est fini du gaz, du mazout, alors il va bien falloir de nouveau bricoler, expérimenter, inventer, et le livre de Desfontaines ne sera plus seulement une prime à la nostalgie, mais un outil de réflexion sur la perpétuelle adaptation de nos maisons.
Pierre Desfontaines, réédition de L'homme et sa maison, avec une introduction de Germain Viat, c'est aux éditions Parenthèse, édition installée à Marseille, c'est bien cela?
Exactement.
À demain, Jean Lebrun, pour un prochain Vif de l'Histoire. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, quel est le programme?
Eh bien la Terre chaude, on parlera de la sécheresse dans un instant.
À tout de suite.